En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je donne la parole à Madame Doane. Donc le nom c'est Doane et Canty c'est le prénom.
Merci beaucoup. J'aimerais d'abord remercier les organisateurs, Monsieur Bachelet et Marion Trévisi, pour cette invitation qui m'a fait beaucoup plaisir. J'ai écouté vos différentes interventions qui abordent un sujet que je connais bien, mais de point de vue très différent, et ça me fait grand plaisir, parce que je suis purement littéraire et j'ai rencontré surtout les littéraires, mais là, j'ai écouté des interventions sociologiques, psychanalytiques, historiques et enfin, des militaires. Ça m'a beaucoup appris. Voilà, merci d'abord. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du rapport de la guerre à la sexualité ou dans l'autre sens, dans la littérature vietnamienne contemporaine. Je parle surtout de la guerre du Vietnam. Voilà. Avant d'entrer au cœur de mon sujet, je rappelle brièvement les points essentiels de ce conflit appelé à l'extérieur la guerre du Vietnam et à l'intérieur la guerre contre les Américains. Vous voyez un petit peu la carte du Vietnam. Le Vietnam, donc, lorsque j'étais enseignante à Paris 7, le Vietnam faisait partie de l'Asie orientale avec la Chine, le Japon et la Corée. Et maintenant, je suis à Linanco, le Vietnam fait partie de l'Asie du Sud-Est avec la Thaïlande, le Laos, l'Indonésie, le Cambodge, tout ça. Et ça change complètement. Ce n'est pas par hasard que les Français ont appelé l'Indochine, hein, parce qu'on est entre deux cultures très différentes, l'Inde et la Chine. Voilà, donc... Je vais aller assez rapidement. Vous devez tous savoir qu'après, en 1954, après 9 ans de conflits épuisants avec la France, le Vietnam devient indépendant mais divisé au niveau du 17e parallèle. Très vite, les Américains débarquent à Saigon. C'est ainsi qu'éclate la guerre sanglante entre la République démocratique au nord et la République du sud, deux États idéologiquement opposés qui ont coexisté de 1954 à 1975. L'un soutenu par l'Union soviétique et la Chine, et Hanoï et Saigon, bien entendu, par Washington. Après de longues années de combats intensifs et un lourd bilan humain et matériel, l'intervention directe et massive des États-Unis prend fin avec la signature des accords de paix à Paris en 1973. La lutte entre forces vietnamiennes s'achève avec la chute de Saigon le 30 avril 1975. Les deux Vietnam se réunifient pour former l'actuelle République socialiste du Vietnam et basée à Hanoï, dans le nord du Vietnam, bien entendu. Le Parti communiste vietnamien est le parti unique au Vietnam et il est au pouvoir depuis 40 ans. En bref, cette guerre, la guerre appelée la guerre du Vietnam, considérée comme la première défaite militaire et la plus grande défaite militaire de l'histoire des États-Unis, a impliqué plus de 3,5 millions de jeunes soldats américains envoyés au front entre 1965 et 1972. Les opérations ont coûté quelques centaines de milliards de dollars aux États-Unis. Du côté vietnamien, 3 millions de personnes ont été tuées. L'armée vietnamienne, à la sortie de la guerre contre les Américains, a été classée 4e armée du monde. Voilà. Mais le Vietnam crevait de faim. On était parmi les pays les plus pauvres du monde. Pour entrer dans d'autres guerres, le Vietnam a traversé 6 guerres au XXe siècle, entre la guerre contre les Français, les Américains, les Japonais, la Chine, le Cambodge, et sans compter la guerre civile entre le Nord et le Sud qui a duré plus de 20 ans. Voilà. Donc, revenons à cette guerre. Hanoï a joué un rôle, enfin Hanoï a très vite compris que c'est sur le plan stratégique, il fallait faire oublier l'aspect fratricide de ces deux guerres, parce que Hanoï cherche la légitimité de cette guerre. Donc dès le début, les autorités de Hanoï la qualifient la plus grande résistance du peuple vietnamien contre les envahisseurs étrangers, tandis que le régime de Saigon est frappé de discrédit en raison de sa dépendance directe avec les États-Unis. Celui de Hanoï effectue un travail idéologique remarquable, tout en un travail idéologique auprès des populations du Nord, du Sud et de l'opinion internationale, tout en occultant l'aide sino-soviétique dont il profite largement, et en jouant la carte de l'autodéfense et de la réconciliation nationale. Et dans ce travail idéologique, j'aborde maintenant mon sujet en tant que littéraire, les écrivains formés par Hanoï jouent un rôle essentiel. Le régime définit ainsi la tâche de la littérature, elle sera un instrument de propagande. La littérature vietnamienne pendant très longtemps a été dominée par le réalisme socialiste, une doctrine importée de l'Union soviétique, qui veut que l'art soit une arme au service de l'idéologie. Donc la littérature doit être un instrument de propagande. L'œuvre littéraire doit dénoncer, je cite, le complot américain visant à diviser le pays, raconter l'héroïsme quotidien du peuple, dire l'espoir qui anime les cœurs, respirer toujours l'optimisme, et cela malgré l'horreur des crimes et l'immensité des souffrances endurées. Dès 1960, les autorités de Hanoï envoient des centaines d'écrivains au front du Sud. Nombre d'auteurs ont le statut de militaire. Les éditions de, vous voyez, les écrivains et poètes au siège de l'Union des lettres et des arts pour la libération, section Saigon-Sading. Donc, ce sont des écrivains envoyés par l'armée du Nord dans le Sud. Et leur travail consiste à composer des poèmes, des nouvelles, des romans en faveur de la libération nationale, au service du marxisme-léninisme. Voilà, vous avez ici les éditions de l'armée populaire ont publié en l'an 2000 un dictionnaire des écrivains militaires en 5 volumes. Oui, ben. 5 volumes. Et on y compte qu'une dizaine de femmes, la plupart sont des hommes, mais en réalité, les femmes écrivent sur ce conflit, et elles sont très nombreuses à écrire sur ce conflit. Et aujourd'hui, je vais commencer par une auteure féminine, Lê Minh Khuê est combattante. Elle est née en 1949 dans le nord du Vietnam. Elle est très célèbre aujourd'hui au Vietnam. Et elle est envoyée dès 1967 au front comme correspondante du journal Tien Phong. Tien Phong, ça veut dire l'avant-garde, siège de la jeunesse communiste vietnamienne, et sa nouvelle Lointaine étoile, écrite en 1971, est tout de suite devenue célèbre parce qu'elle met en scène la vie quotidienne des combattantes sur la piste Ho Chi Minh. Alors, qu'est-ce que c'est la piste Ho Chi Minh? Vous devez sans doute savoir, on va revenir sur la carte du Vietnam. Donc, la piste Ho Chi Minh, il s'agit de l'épine dorsale qui, en fait, il s'agit d'une chaîne de montagnes qui traverse le Vietnam. Donc, pendant la guerre du Vietnam, très vite, dès 1959, le régime de Hanoï a tout de suite compris qu'il s'agissait de la voie de transport principale pour envoyer les armes et les soldats du nord vers le sud, en passant parfois par le Laos. C'est ainsi que la piste, donc très vite surnommée la piste Ho Chi Minh, est devenue l'objectif majeur de l'avion l'aviation américaine. Le prototype de la piste Ho Chi Minh a été le réseau de transport pour ravitailler la bataille de Dien Bien Phu en 1954. Selon les chiffres officiels, 1,5 million de femmes vietnamiennes ont participé à la guerre contre les Américains. Dans l'armée, souvent dans l'armée parallèle. Ils distinguaient l'armée régulière et l'armée parallèle. Elles sont très nombreuses sur la piste et elles sont souvent mobilisées dans les domaines de ravitaillement. Vous avez ici des femmes, des images des femmes combattantes. Alors, elles travaillent dans le ravitaillement très souvent, dans le transport, dans la réparation des dégâts causés par les bombardements ou encore dans le soutien à l'armée régulière. Revenons maintenant à la nouvelle de Les Minh Kuei, Lointaines Étoiles. Je vais essayer de résumer rapidement cette nouvelle. Il s'agit des femmes, des jeunes femmes combattantes d'origine citadine ou paysanne. Leur travail, donc, elles vivent sur la piste Ho Chi Minh. Leur travail consiste, après chaque bombardement américain, à grimper sur les sommets pour, je cite, évaluer le volume des cratères à combler, repérer les engins qui n'ont pas encore explosé et les faire sauter le cas échéant. Donc c'est un travail extrêmement dangereux. Or, au milieu des rugissements d'avions et des éclats de bombes, elle chantonne, elle brode, elle copie des paroles de chansons, elle parle souvent, on est dans la propagande, elle parle souvent de l'avenir avec confiance et vif dans l'admiration des soldats qui le comparent aux étoiles lointaines. L'œuvre se clôt sur une déclaration mièvre de la narratrice, je cite, « Je déborde d'amour pour tout le monde, amour combien chaleureux, indicible, nous comprenons parfaitement et jouissons pleinement de notre bonheur. » On est en 1991, 4 ans avant la fin de la guerre. Très vite, cette nouvelle a été traduite en plusieurs langues étrangères, y compris le français, et comme bien sûr texte de propagande. Et aujourd'hui, cette nouvelle est enseignée à l'école, parmi les classiques vietnamiens. Voilà. Donc, dans cette représentation des femmes est marquée par une forte empreinte du marxisme-léninisme et le confucianisme qui marque encore aujourd'hui la structure mentale du Vietnam. Si le marxisme-léninisme réclame l'égalité des sexes et la promotion des femmes, aujourd'hui, au Vietnam, la femme est l'égale de l'homme dans tous les domaines sur le plan juridique. Et le confucianisme veut que la femme soit un être inférieur à l'homme. Afin de répondre à cette exigence double et contradictoire, le Parti communiste et l'État appellent les femmes pendant la guerre à contribuer massivement à la défense du pays tout en réservant des postes de responsabilité à leurs confrères masculins. En réalité, non seulement elles souffrent autant que les hommes pendant la guerre, mais une fois la paix rétablie, elles échouent dans leur réadaptation à la vie civile. En effet, après avoir perdu leur jeunesse, elles rencontrent plus que les hommes des difficultés dans la procréation, dans la recherche du bonheur conjugal ou encore dans la quête du travail. Alors, il est intéressant donc de se demander quand et comment la littérature vietnamienne a tenté de renouveler cette représentation de la femme dans son rapport à la guerre. Autrement dit, par quels moyens les œuvres vietnamiennes ont-elles dépassé les images consacrées d'épouses fidèles et de combattantes heureuses? Alors, le changement politique le plus important de l'histoire contemporaine du Vietnam a daté de 1986, en décembre 1986, sous l'influence de la perestroïka soviétique, le Parti communiste vietnamien a lancé un très large mouvement en faveur du renouveau, tout en restant en place. Le Parti communiste vietnamien est le seul parti politique au Vietnam, bien sûr, tout en restant en place. Il accorde un petit peu plus de souplesse à la vie culturelle et économique. Donc, vous avez leur slogan aujourd'hui, c'est un pays socialiste à orientation capitaliste. Donc, vous avez tout. Voilà, c'est un peu. Donc, sur le plan culturel, surtout en matière littéraire, plus beaucoup de thèmes, de sujets tabous ont pu être traités. Et voilà, dont ce thème qui est la guerre. En plus, 15 ans après la fin de la guerre, j'arrive en 1989-90, c'est-à-dire 15 ans après la fin de la guerre, je pense que c'est une durée assez, disons, suffisante pour que le peuple vietnamien puisse faire le deuil du passé et essayer de voir ce qui s'est passé et d'écrire sur son passé avec un petit peu plus de recul et enfin de dire la vérité. Et puis, il est temps aussi de jeter un regard critique sur la guerre, dite la guerre légitime. Il n'y a pas de guerre légitime. Dans toutes les guerres, qu'on soit vaincu ou vainqueur, on est tous vaincus. Est-ce que les Vietnamiens ont compris au bout de 15 ans? Parce que le Vietnam était toujours parmi les pays les plus pauvres du monde. Voilà. Donc, en 1989, j'arrive ici à un roman très important, L'arme écarlate, un roman écrit par Chen Huiguan, un ancien combattant qui est devenu écrivain. Vous avez compris que le Vietnam, c'est un peuple de guerriers, mais on peut dire aussi que le Vietnam, c'est un peuple de lettrés. Et lorsque le lettré s'associe et le guerrier s'associe, et on arrive à avoir des poètes militaires et des écrivains militaires, ce n'est pas par hasard qu'au Vietnam, les plus grands écrivains sont issus de l'armée. C'est un point très intéressant pour le Vietnamien. On ne peut pas imaginer Napoléon poète, mais je peux vous citer plusieurs cas de généraux vietnamiens qui sont des poètes. Ah, on ne sait pas. Ah, il a fait des poèmes. Ah, pardon. Une pièce de théâtre. Tout est possible. Voilà. mauvaise. D'accord. Bon. Alors, donc, c'est un roman écrit, donc, L'arme écarlate, un roman de 1989, qui raconte le retour. Donc, à partir de cette date, apparaissent des romans qui jettent un regard critique sur cette guerre, dite la guerre la plus légitime, la plus grande guerre du peuple vietnamien, et à travers le destin tragique des femmes. Donc, ce roman raconte le retour d'une ancienne volontaire de la piste Ho Chi Minh. Cette jeune femme, dans la société de l'après-guerre, où les mâles manquent toujours cruellement, elle se trouve dans l'impossibilité de bâtir une vie de famille et tente l'amour dans les bras des hommes d'une nuit. Et elle met au monde, à la fin du roman, un enfant mal formé, fruit de l'agent orange qu'elle avait subi sur le champ de bataille. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'agent orange. Bon, ça, c'est comme ça. Les victimes sont des deux côtés, du côté vietnamien ainsi que du côté américain. Il y en a pas mal. Voilà. En 1991, un autre roman intitulé « L'embarcadère des femmes sans mari », que j'ai traduit avec Emmanuel Poisson, qui est sorti aux éditions de l'Aube en l'an 2002, un très très beau roman qui a reçu le prix de l'Union des écrivains du Vietnam. Voilà. Donc c'est un roman qui « L'embarcadère des femmes sans mari ». Les femmes d'un village dans le delta du fleuve Rouge qui attendent tous les jours au bord du fleuve le retour de leur être aimé. Ça peut être leur mari, leur amant, leur fils, leur frère. Et la plupart ne reviennent pas. Et lorsqu'ils ne reviennent, ils sont blessés et ils sont stériles. Alors, l'héroïne du roman, une jeune femme, voit revenir son mari, glorieux, bardé de médailles, mais impuissant. Donc, le couple vit dans l'humiliation parce que la stérilité du couple est attribuée à l'infécondité de la femme. Voilà. À la fin du roman, la jeune femme, dans une crise de détresse nocturne, se trouve dans les bras de son père adoptif, un autre héros d'une autre guerre, c'est la guerre contre les Français. Et quelques années après, lorsqu'elle revient au village avec sa fille conçue avec son père adoptif, l'homme se suicide n'ayant pas pu surmonter la honte. Donc ce roman reflète la lutte des femmes contre la guerre, plus exactement contre la séparation, la souffrance, la destruction provoquée par la guerre et par le biais de la procréation et l'amour. C'est la lutte féroce, parce que tous les enfants de ce texte, de ce roman, sont nés hors mariage, du désordre. Mais la nouvelle la plus puissante, le texte le plus puissant en cette matière est cette nouvelle intitulée « La survivante ». Les Vietnamiens écrivent beaucoup de nouvelles. Pendant très longtemps, la nouvelle est le genre majeur parce que la presse vietnamienne, n'importe quel journal vietnamien, vous lisez le journal de la police, le journal de l'armée, le journal des pompiers, vous avez toujours une page accordée à la littérature. Donc ça a beaucoup favorisé le développement de ce genre, de cette forme brève de la littérature. Bon, on écrit beaucoup de romans aussi, mais la nouvelle est joue un rôle très important, occupe une place majeure. Donc cette nouvelle intitulée est La survivante de la forêt Kiri, parue également en 1991, et sans doute le texte le plus puissant en cette matière. Elle est écrite aussi par une femme, Vo Thị Hào, qui est née en 1956. Elle n'a jamais participé à la guerre parce qu'elle était trop jeune. Sinon, Dương Hương, cet auteur de l'embarcadère des femmes sans mari, lui aussi a été combattant. Et ensuite, il est devenu écrivain. Non, cette nouvelle, non, malheureusement. Ah, bon, je suis désolée. Ah oui, il faut travailler. Donc, cette nouvelle, écrite également par une femme, vous voyez, au Vietnam, les femmes écrivent et les femmes combattent. Cette nouvelle porte directement sur la vie des combattantes en travaillant sur un thème très neuf, les problèmes psychologiques et sexuels dont souffrent les combattantes pendant et après la guerre. Cette nouvelle pose la question du désir féminin, non de procréer, mais d'aimer. Et c'est aussi le premier texte à condenser en une dizaine de pages nombre de sujets alors tabous, désir sexuel, frustration, névrose, hystérie et folie, et à les exposer sans concession. Résumons d'abord cette nouvelle. 5 jeunes volontaires, tout à l'heure c'était 3 volontaires, maintenant c'est 5 jeunes volontaires, surveillent dans une forêt perdue de la piste Ho Chi Minh, une réserve de ravitaillement. Elles souffrent de l'influence néfaste sur leur beauté, en particulier sur leur chevelure, mais surtout de la solitude et de l'ennui. Et les visites sont rares, le temps semble immobile. Thao, la Benjamin, amuse ses amis, il faut tuer le temps. Elle leur raconte les souvenirs de son amour pour un jeune étudiant de Hanoï. Ce dernier, à travers son récit fantasmé et l'imagination des jeunes filles, perd sa réalité pour devenir une sorte de prince charmant des contes de fées. Un jour, 3 soldats arrivent de l'armée du Nord, arrivent dans cette réserve pour s'approvisionner et ils assistent par hasard à un spectacle horrible. Les jeunes femmes, sauf la Benjamin, pratiquent pratiquement nues, sous leurs vêtements déchirés, et elles se livrent à des gestes obscènes. Les soldats sont frappés surtout par le rire, un sauvage, bestial. Après un moment de frayeur, ils prennent conscience de cette folie féminine liée à l'absence prolongée d'hommes. avec délicatesse, il les ramène à la conscience. Néanmoins, la souffrance de ces femmes s'accroît parce qu'elles sont humiliées de leur maladie et la réserve est dès lors baptisée la forêt qui rit. Quelque temps plus tard, attaquées par un commando de l'armée de Saigon, ces jeunes femmes se suicident pour échapper au viol, sauf par une chance extraordinaire, la Benjamine a survécu à ce drame. À l'hôpital, elle apprend que l'un des trois soldats qui avait assisté à cette scène horrible vient de mourir au combat et qui n'a pas été récompensé par le titre posthume du héros de la guerre parce que le commissaire politique de son unité avait découvert sa pensée secrète et subversive sur la guerre en lisant en cachette son journal intime. Voilà ce qu'il a écrit, ce jeune homme, avant de mourir. « Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu dans la forêt qui rit. Même la mort me semble plus agréable. C'est ainsi que 9 ans après mon engagement, j'ai entendu le rire sauvage et dénaturé de la guerre. » 2 ans plus tard, la jeune femme quitte l'armée et s'inscrit à la faculté de lettres de Hanoï où son fiancé, le prince charmant d'autrefois, étudiant en dernière année. Elle vit dans l'internat et elle partage sa chambre avec 11 étudiantes, mais se replie sur elle-même, hantée par les fantômes de ses anciennes camarades de la piste Ho Chi Minh. Elle continue à voir le jeune homme tout en sachant que le prince charmant de ses rêves ne l'aime plus que par devoir. Elle échafaude un stratagème qui permettra à l'homme de la quitter sans avoir rien à se reprocher. Elle s'envoie chaque semaine un courrier à sa propre adresse et afin que son entourage soit convaincu qu'il s'agit des lettres de son nouvel amant. L'homme se sent soulagé et se marie un mois après, tandis que la jeune femme, traitée d'infidèle, est l'objet d'un mépris unanime. La nuit de noces du jeune homme, la jeune femme, l'héroïne de la nouvelle, ouvre pour la première fois ses fausses lettres pour replonger dans ses souvenirs, imagine, je cite, les plaisirs voluptueux de l'homme auprès de sa nouvelle femme. Soudain, les étudiantes sont réveillées par les éclats de rire sauvages et de la jeune femme en proie à une crise d'hystérie. La folie féminine est donc le thème central de ce récit de guerre, affectivement et sexuellement frustré, et abandonné dans une grande solitude et dans l'angoisse de l'adversaire, ces jeunes femmes, ces combattantes, vivent dans une double situation. Elles doivent à tout moment affronter l'ennemi, les armes à la main, et en même temps, elles connaissent la solitude et l'attente, la longue attente des femmes restées à l'arrière. Et la jeune femme, l'héroïne, n'a pas échappé à la folie, et même après plusieurs années de paix. C'est sans doute la première fois que la littérature vietnamienne de guerre a mis en spectacle la folie féminine. À travers ce rire sauvage, bestial, la destruction physique et morale de l'être humain par la guerre est symbolisée chez Wodehouse, cette écrivaine, par la corruption du rire. Dans une autre nouvelle intitulée « L'âme d'une vierge », la deuxième nouvelle que j'ai mentionnée ici, elle raconte l'histoire d'une jeune femme qui, après une dizaine d'années de guerre, d'attente, découvre avec effroi que son mari, guerrier et de retour de la guerre, ne sait plus sourire, ni rire. Je cite: l'homme essaye de prendre une expression rieuse. Depuis longtemps, il n'a pas fait ce geste. Après un effort énorme, il réussit à se rappeler que pour sourire, il faut au moins se laisser découverte l'une des deux mâchoires. Alors, il esquisse un léger mouvement de la bouche et aborde toutes ses dents. Mais il oublie que pour sourire, c'est avec ses yeux et son âme. Or, son sourire transforme son visage en celui d'un loup. La folie est généralement qualifiée de désordre qui menace la stabilité sociale. Aujourd'hui encore, au Vietnam, les malades mentaux sont internés un Traul, l'héroïne de cette nouvelle, est amenée à l'hôpital, les mains et les pieds attachés. Au reste, le régime communiste a longtemps cherché à refouler les expressions de l'inconscient et a toujours cherché à interdire toute étude psychanalytique. L'enseignement de Freud n'est autorisé que depuis peu. Freud est entré au Vietnam face à sa théorie très tôt avec les Français, depuis 1930. Et ensuite, Freud a été interdit par le régime communiste. Et en travaillant sur tous ces textes, très souvent, je me suis demandé si nos auteurs avaient lu Freud avant d'écrire tout ça, sur l'inceste, sur la sexualité. Il est impossible de savoir. Je ne pense pas. De toute façon, Freud est interdit. Dans le suite, non. Mais à cette époque, il est rare qu'un auteur vietnamien puisse lire Freud. Bon, aujourd'hui, Freud est autorisé et au Vietnam. Voilà. Donc, la nouvelle, on revient à la nouvelle de Wong Tiao. Donc, l'originalité de cette nouvelle consiste à faire sentir, à travers ces destins de femmes, l'horreur de la guerre. L'horreur ici, ce n'est pas le soldat qui tue, mais l'idée qu'il n'y a plus de lendemain, symbolisée par le corps féminin, nu, blessé, stérile, souillé, mort ou porteur de folie, la représentation du corps féminin détruit comme le crime le plus atroce de la guerre est une spécificité de l'écriture de Wong Tiao, toujours cette écrivaine. Dans une autre nouvelle intitulée « Le vent couleur de la mousse », que j'ai mentionnée ici, elle met en scène une communauté de femmes rendues veuves par la guerre, et ces femmes-là sont réunies depuis plusieurs décennies sur une île où l'unique présence masculine est, ironiquement, une statue de soldat. Ces femmes sculptent les pierres tombales en forme humaine au lieu d'engendrer. Dans la nouvelle évoquée plus haut, l'âme d'une vierge, Wong Tiao raconte comment la jeune femme, la mariée, déçue par l'incapacité de son mari guerrier à rire et à sourire, elle refuse l'union sexuelle avant de se transformer en une plante. Laquelle se replie sur elle-même à chaque contact humain comme si elle avait honte. La métamorphose végétale de la jeune femme peut être interprétée comme son renoncement à la vie humaine, à son devoir féminin de procréation. Le comportement suicidaire des héroïnes de Wong Tiao suggère que dans le Vietnam d'après-guerre, les femmes n'aiment ni n'enfantent. Le refus de l'amour et de la maternité relève de la pulsion de mort. C'est de ce point de vue que Wong Tiao paraît plus pessimiste que les écrivains masculins. Parce que dans les romans de Zhong Hun ou de Chen Huiguan, les femmes, le seul désir qu'elles éprouvent, c'est de faire des enfants, de mettre au monde des enfants, et quels qu'ils soient mal formés, qu'ils soient illégitimes. Il faut mettre au monde des enfants. C'est une façon pour elles de lutter contre la destruction et contre la guerre. Et tandis que chez cette femme, c'est le renoncement à la procréation. On voit bien que, de ce point de vue, donc, elle est pessimiste que les hommes, mais qu'ils soient hommes ou femmes, ces auteurs s'interrogent les uns comme les autres sur le rapport de la guerre à la filiation. Au Vietnam, la guerre, l'amour et l'écriture forment souvent un seul acte, vous avez bien vu. C'est le propos de mon ouvrage intitulé « Écrire le Vietnam contemporain, guerre, corps, littérature ». C'est un livre que j'ai publié il y a 3 ans, 4 ans déjà, aux presses universitaires de la Sorbonne. Et à l'origine aussi de mon travail sur la guerre, c'est la douleur de Marie Duras que j'ai traduit en vietnamien en l'an 2000. Et un petit peu plus loin, parfois je me demande pourquoi j'ai travaillé sur la guerre dans la littérature vietnamienne, je suis venue en France pour faire une thèse sur George Sand. Et bien sûr, en travaillant sur George Sand, déjà George Sand est fille de militaire, hein, c'est pas si vous savez que George Sand est fille de Maurice Dupin, qui était un officier de l'armée de Napoléon, et c'était à Milan qu'il a rencontré sa femme, qui est la mère de George Sand, qui était une femme entretenue par un colonel toujours de l'armée de Napoléon, et ils se sont mariés, et c'était une sorte de mésalliance, parce que le père de George Sand, c'était un descendant de Maurice de Saxe, c'est une famille très illustre, tandis que la mère de George Sand était une simple fille entretenue et fille de son grand-père était oiselier sur le quai de la Seine. Et voilà, donc, mais en travaillant sur George Sand, j'ai beaucoup travaillé aussi sur Balzac. Et tout à l'heure, j'ai parlé rapidement de Balzac. Balzac a écrit deux très grands textes sur la guerre, parce que ça fait partie de cette génération napoléonienne, si on peut le dire, de l'Empire. Le premier roman que vous connaissez sûrement, c'est le Colonel Chabert, qui est une histoire qui raconte l'histoire d'un revenant, hein, un homme. C'est une histoire qui raconte le retour d'un homme qu'on a cru mort, et puis il revient, et puis sa femme appartient déjà à un autre. C'est une histoire qui existe tous les jours au Vietnam. Et en lisant Chabert, je dis, mais il y a plein de romans vietnamiens qui racontent la même chose. Mais Balzac a écrit un texte beaucoup plus, moins connu, mais très intéressant aussi, qui s'appelle une nouvelle, qui s'appelle Adieu. Adieu a été classé au début dans les contes militaires. Balzac a écrit des contes qu'il appelait des contes drôlatiques, des contes militaires. Et en fin de compte, il a décidé de classer Adieu dans le conte philosophique. Alors, Adieu raconte l'histoire incroyable d'un trio. Alors Balzac, les femmes de Balzac se promènent toujours entre un mari et un amant, et là c'est l'histoire d'une comtesse, hein, Stéphanie Stéphanie de Vandière, qui se trouve à Bézina, dans la campagne de la Russie. Et son mari est un général de l'armée de Napoléon. Et son amant est Philippe de Sucy, un colonel de l'armée, toujours. Donc, ils se trouvent par hasard, comme ça, tous les trois, sur le passage de Bézina. Et à la fin, il ne reste une seule place sur le radeau. Il faut passer. Et Philippe a cédé sa place à sa maîtresse. Et en acceptant, bien sûr, à contre-cœur cette place, Stéphanie a cru que ce serait la dernière fois qu'elle voyait son amant. Et donc, le seul mot qu'elle lui a dit, c'est « adieu ». Et ensuite, elle est devenue folle. Mais folle, elle a complètement perdu. Et pendant des années, elle dit tout le temps « adieu ». Mais c'est tout. Et 10 ans après, un jour, lors d'une partie de chasse, dans la forêt de Fontainebleau, Philippe de Sucy, accompagné d'un ami, voit de loin un être qui se promène. Au début, il croyait que c'était un animal. Et en s'approchant, ils ont découvert que c'était une femme. Et enfin, c'est Stéphanie. Et Philippe a reconnu dans cette femme, qui a perdu complètement sa tête, Stéphanie, son ancienne maîtresse. Et là, c'est le coup de génie de Balzac, parce que Balzac, comme tous ses contemporains, se posait la question sur la folie. Qu'est-ce que c'était la folie? Et comment la guérir? Donc, Philippe de Sucy cherchait à guérir sa maîtresse. Et il voulait faire une expérience fabuleuse, c'est-à-dire reconstituer la bataille de Bérézina. Parce qu'il pense qu'il faut absolument la mettre dans le contexte et pour Eh bien, il a réussi. En pleine nuit, il a fait venir tous ses paysans. Il a reconstitué le cadre de Bérézina. Et Stéphanie, justement, ouvre les yeux. Elle a reconnu. Et, eh bien, tellement vrai qu'elle meurt. Et le seul mot qu'elle dit, adieu, et puis elle meurt. Et ben oui, c'est toujours Balzac. Et trois jours après, Philippe de Sucy se tue avec une balle dans sa tête. Voilà, ça c'est Balzac. Voilà, donc à l'origine de mon travail, j'étais... Salamou. Merci beaucoup, merci de votre attention. Thank you.